en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde. Pour le deuxième volet de ce cycle, je reçois Anne-Yvonne Julien, qui enseigne la littérature contemporaine à l'Université de Paris 10 pour une étude des mémoires de Marguerite Yourcenar et de quelques-uns des personnages yourcenariens. Pour la musique, ce sera Hector Berlioz, les Troyens, qui nous accompagneront. Alors que je préparais ce cycle et que je cherchais un titre qui rendrait compte de la curiosité et de l'intérêt de Marguerite Yourcenar pour toutes les cultures, je lis cette phrase dans l'introduction de votre livre, Anne-Yvonne Julien, La signature de l'arbre, édité au PUF en 2002. Je vous cite « Yourcenar avait bien la fibre citationnelle, mais elle ne se limitait en rien au canton dix-septiémiste et à la sphère antique. » Elle se comportait en citoyenne du monde, qui n'était pas seulement celui des lettres, mais celui des philosophies, des religions et des mythologies de toutes les époques. Qui plus est, l'écrivain sillonnait les champs génériques les plus variés, poésie, essais, récits brefs, amples fictions historiques, légendes revisitées, chroniques familiales. Je vous remercie donc, Anne-Yvonne Julien, de m'avoir quasiment offert le titre de ce cycle. Nous allons donc maintenant nous concentrer sur les mémoires, c'est-à-dire sur la trilogie « Le labyrinthe du monde » qui se présente comme la biographie familiale de Marguerite Yourcenar puisqu'elle commence ainsi « L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903 vers les 8 heures du matin à Bruxelles et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis s'étaient fixés dans le Hainaut. » Il peut sembler paradoxal, alors que nous avons choisi ce titre, Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde, de nous pencher sur une biographie familiale, genre qui suppose plutôt un resserrement sur soi et les siens qu'une ouverture sur le monde. Est-ce le cas ici, Anne-Yvonne Julien ?
Alors, question légitime, quel est le propos du labyrinthe du monde ? Ce titre ambitieux, a priori obscur, nous y reviendrons, n'annonce pas en effet d'emblée un projet de concentration sur le moi auteur. On sait la réticence que l'écrivain a vis-à-vis de l'autobiographie, puisqu'elle l'a souvent exprimée, réticence que Yourcenar a d'ailleurs en partage avec un contemporain qui ont abordé le territoire autobiographique, mais de façon oblique. Et à dire vrai, on ne l'attendait pas sur la voie de l'autoportrait. Pour ceux d'entre vous qui ont lu son texte sans doute le plus célèbre, Mémoire d'Adrien, ces mémoires fictives d'un empereur latin du second siècle, vous savez à quel point la romancière aimait à se défendre de toute projection personnelle sur l'intériorité d'un homme immensément cultivé et grand politique du second siècle. Alors, faut-il voir un revirement de la maturité ? Certes non. Même si le lecteur peut croire, en début du premier volume, Souvenir pieux 1974, à la promesse d'un récit autobiographique assumé comme tel, à une amorce de focalisation sur soi, hein, « L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903 vers 8 heures du matin à Bruxelles », il apparaît très vite qu'il ne s'agit en aucun cas d'un début d'autobiographie en bonne et due forme. Donc le lecteur qui a été mis en appétit autobiographique par les premières lignes du texte s'expose à être sinon déçu, du moins dérouté. Ce que Marguerite Yourcenar cherche à rejoindre, c'est, dit-elle, l'image d'une personne et de quelques autres, d'un milieu, d'un site où ça et là une échappée momentanée sur ce qui est sans nom et sans forme. D'où une étonnante stratégie de digression. Souvenir pieux joue l'effet de boucle. L'enfant qui paraît dans les premières pages du texte rejoint l'état virtuel, en fin de volume, Fernande, la future mère. Si elle réapparaît dans l'archive du Nord, c'est à la dernière page, in extremis, pourrait-on dire, dormant sur les genoux de Madame Azélie, la garde, sur la terrasse qu'ombragent les tilleuls, où la petite suit de ses yeux neufs le vol d'un oiseau ou le rayon de soleil qui bouge entre deux feuilles. Puis le premier chapitre de Quoi l'éternité précise que la petite a été installée dans la grande chambre ovale de la tour du Mont-Noir. Mais curieusement, le début de ce troisième texte met l'accent sur la solitude de Michel, le père. Michel est seul, seul avec cet enfant de 2 mois à peine qu'il va scrupuleusement voir matin et soir, assistant à son bain, s'informant de ses biberons et de ses évacuations. Et si la jeune Marguerite n'occupe pas encore le premier plan, une séquence véritablement autobiographique se dessine avec les miettes de l'enfance, puis le moi regardé se fait de nouveau moins présent. Quant au fil généalogique et familial que vous évoquez aussi, il est loin d'être continu. Certes, les 2 premiers tomes du labyrinthe, Souvenirs pieux, Archives du Nord, sont articulés selon 2 pôles familiaux. Dans Souvenirs pieux, bref regard sur le couple des parents de Marguerite, Michel de Crayancourt et Fernande, née quartier de Marchienne, et une remontée vers les ancêtres maternels. Dans Archives du Nord, une descente depuis les lointains inexplorés jusqu'à Michel et au tout jeune enfant en passant par la cohorte des ancêtres paternels. Mais Yourcenar ne semble guère obsédée par la recherche des racines. Elle n'hésite pas à oser la digression descriptive, à quitter le lot des ancêtres avérés pour fréquenter par l'imagination des ancêtres imaginaires ou des figures de créateurs historiques. Je pense à Rembrandt, je pense à Rubens, par exemple. Donc elle ne nous offre pas le livre de ma mère, puis celui de mon père et enfin celui de Marguerite. Le récit de naissance n'est pas sitôt amorcé qu'il est suspendu. Et ce qui est pointé, finalement, c'est la difficulté de représentation du moi originel qui repose sur le détour par des bribes de souvenirs, de secondes, oui, de dixièmes. Si l'écrivain a souhaité placer son labyrinthe du monde sous un signe particulier, c'est sous celui de la quête. Le premier mot du triptyque, après tout, est le concept clé de l'ontologie, celui d'être, et l'expression inaugurale, l'être que j'appelle moi, le reflet d'un étonnement récurrent de la philosophie, qu'est-ce que cet être et faut-il l'appeler moi? Et quel lien entretient-il surtout avec le monde à travers lequel il chemine? Et c'est là que nous retrouvons bien sûr le labyrinthe du monde. Au fond, Yourcenar se présente comme un existant parmi d'autres existants, historiquement situés, mais en relation par le biais de la mémoire et de la littérature avec des existants de tout temps et de tous espaces.
Cette fillette vieille d'une heure est en tout cas déjà prise, comme dans un filet, dans les réalités de la souffrance animale et de la peine humaine. Elle l'est aussi dans les futilités d'un temps, dans les petites et grandes nouvelles du journal que personne ce matin n'a eu le temps de lire et qui gît sur le banc du vestibule, dans ce qui est de mode et dans ce qui est de routine. Au haut de son berceau se balance une croix d'ivoire ornée d'une tête d'angelot que, par une suite de hasards presque dérisoires, je possède encore. L'objet est banal, pieux bibelot qu'on a mis là parmi des nœuds de ruban presque aussi rituels, mais qu'auparavant Fernande a probablement fait bénir. L'ivoire provient d'un éléphant tué dans la forêt congolaise, dont les défenses ont été vendues à bas prix par des indigènes à quelques trafiquants belges. Cette grande masse de vie intelligente, issue d'une dynastie qui remonte au moins jusqu'au début du Pléistocène, a abouti à cela. Ce brimborion a fait partie d'un animal qui a brouté l'herbe et bu l'eau des fleuves, qui s'est baigné dans la bonne boue tiède, qui s'est servi de cet ivoire pour combattre un rival ou essayer de parer aux attaques de l'homme, qui a flatté de sa trompe la femelle avec qui il s'accouplait. L'artiste qui a façonné cette matière n'a su en faire qu'une bondieuserie de luxe. L'angelot, censé représenter l'ange gardien auquel l'enfant croira un jour, ressemble aux cupidons joufflus fabriqués eux aussi en série par des tâcherons gréco-romains. Marguerite Yourcenar, Le labyrinthe du monde, Souvenir pieux, dans la collection La Pléiade, Gallimard, 1991. Anne-Yvonne Julien, Marguerite Yourcenar procède ici par élargissement. Elle part de ce point particulier, le berceau, pour ouvrir le récit sur le monde, la nouvelle née apparaissant ainsi non plus comme le centre, mais comme un élément pris dans un réseau événementiel qui la relie au monde. Est-ce à dire que ce berceau serait le berceau du monde, du moins dans la sphère du récit, Annie von Julien ?
Alors, berceau en tout cas, non pas berceau du monde, mais berceau qui, comme vous l'avez très justement dit, ouvre sur le monde. Hein, on ne peut qu'être déconcerté par le ton ironique avec lequel Yourcenar aborde le récit de cette venue sur Terre. Il y a comme un décrochement entre l'objet du regard, l'enfant, et le jeu qui fait l'effort du souvenir. Au fond, ça n'est pas le début d'une destinée qui est ici comptée. On n'a pas de trait exceptionnel conféré à celle qui est simplement nommée la nouvelle-née, l'enfant, la petite, la fillette. Donc, on est loin d'une séquence de récits de naissance à la Chateaubriand, dramatisée à l'extrême, où le narrateur, metteur en scène de sa vie, voyait dans les circonstances de son arrivée ici-bas l'intervention du ciel, plaçant dans son berceau une image de ses destinées. Tout cela sur fond de tempête d'automne. Ici, il est simplement question du rapport entre ce bout de chair rose et le moi adulte, comme si Yourcenar optait résolument pour le renoncement à toute singularité. Et l'argumentaire qui sous-tend ce récit d'une naissance s'appuie sur la banalité dérisoire de la scène. Le moi, en cette circonstance, est semblable à tous les autres. Non, cette naissance ne doit pas être considérée comme un événement. Et vous l'avez constaté, l'écrivain n'a pas sitôt décliné les diverses phases de l'accouchement qu'il s'ingénie à s'éloigner du moi regardé en s'attardant sur tous les objets qui environnent la petite. Dans son berceau. Ainsi, l'attention du lecteur est-elle guidée du berceau à la croix d'ivoire qui se balance à son faîte, de l'ivoire à l'éléphant dont il provient, la forêt qui abrite l'animal, aux indigènes qui l'ont massacré, aux trafiquants occidentaux qui exploitent ce commerce de luxe, ou encore, et bon, dans le contexte ultérieur du minuscule couvre-lit qui préserve l'enfant, aux dentelières qui l'ont brodé, à leurs injustes conditions de travail, ou du lait qui apaise les cris de la petite fille, à la vache, bête nourricière, elle-même promise au commerce de la viande. C'est dire le jeu de dérive vertigineux. Au fond, en faisant son entrée dans la vie, ce que suggère l'auteur, c'est que l'enfant s'est inséré dans les réseaux de la souffrance humaine. Si une philosophie est sollicitée dans ces pages, c'est essentiellement la pensée tragique d'un Schopenhauer qui met au fondement de l'existence l'expérience de la souffrance. Ouais. Les visions couleur d'azur sont écartées. Ou du moins, elles sont mises au compte des vues un peu niaises de la mère ou des gardes d'enfants. Au fond, lorsque Yourcenar s'imagine vagissante, ce n'est pas la sacralité de la voix du petit enfant qui est retenue, mais l'image d'une force qui s'extériorise, la première expression d'une lutte effrayante pour la vie. Et donc, ce qui est important, c'est qu'au fond, on s'aperçoit qu'on a ici ce moi qui est immédiatement situé dans une histoire, bon, l'histoire d'une famille aisée du nord de la France au début du XXe siècle, mais que indirectement, cet enfant, ce petit existant, est en lien avec les réseaux du monde entier. Et cette page est tout à fait illustrative de ce mouvement d'élargissement que Marguerite Yourcenar ne va cesser d'esquisser tout au long du labyrinthe du monde.
Il s'agit tout de même de l'histoire de la famille et toutes les figures tutélaires y ont leur place. En premier lieu, la mère, qui mourut d'ailleurs une dizaine de jours après l'accouchement. Marguerite Yourcenar a affirmé qu'elle n'avait jamais souffert, du moins étant adulte, du manque de la mère. On peut d'ailleurs se demander si dans « Souvenir pieux », le premier texte de la trilogie, le portrait de la mère, Fernande, est très valorisant. Qu'est-ce que vous en pensez, Annie von Julien ?
Alors c'est vrai, la critique a parfois eu tendance à repérer les traces d'un rapport presque répulsif de Marguerite Yourcenar à sa mère naturelle, influencée en cela par la vision relativement brutale que Yourcenar donne de Fernande agonisante et par les affirmations appuyées aussi de l'écrivain qui se refuse à reconnaître dans la perte prématurée d'une mère l'origine d'un quelconque traumatisme. Alors c'est vrai, Yourcenar refuse les attendrissements établissement factice. Après tout, elle n'a pas connu sa mère, puisque celle-ci est morte peu après lui avoir donné le jour. Donc, elle, de même qu'elle n'est qu'un être elle-même qui advient à la vie comme tant d'autres, Fernande est une jeune femme parmi d'autres de son milieu, de son temps, élevée dans un environnement aisé, peu renseignée sur les réalités du corps, confrontée à la peur légitime de la mort, qui est celle de toutes les jeunes mères de son époque. Manifestement, l'écrivain oscille entre une posture d'observation presque clinique de l'accouchement et une forme de compassion. Donc, il faut se resituer dans cette perspective-là pour comprendre ce regard un peu distancié de Yourcenar sur cette séquence de l'accouchement. Il reste que lorsqu'on regarde de près Souvenir pieux qui fait réapparaître un certain nombre de fois la figure de Fernande, on s'aperçoit que les nuances et les subtilités du portrait maternel ne doivent pas échapper au lecteur. Au fond, l'écrivain ne fait pas, loin de là, un portrait, dévalorisant de Fernande. Elle montre, par exemple, elle s'égrée à sa génitrice d'avoir été ce qu'elle nomme une demi-rebelle. L'expression est jolie. C'est un qualificatif qu'elle associe d'ailleurs à Michel lorsqu'elle envisage l'unité du couple 1900. La mère, c'est vrai, est prise dans un certain nombre de conventions et de limites qui sont celles de son milieu. Mais Yourcenar montre qu'au fond, Fernande, avec les moyens qui sont les siens, essaie au fond de tracer son propre chemin malgré tout. Et il y a une forme de... il y a tout de même, de part en part, un regard de relative tendresse sur cette jeune fille qui, malgré tout, résiste aux pesanteurs, par exemple, du pensionnat. Il y a les motifs du maintien négligé, de la petite mèche qui pendille, qui ponctue les portraits rapides de Fernande et qui atteste de sa capacité de jeune fille aux raideurs de la vie de pensionnat. Par ailleurs, on sent que Yourcenar a cherché à épouser les moments de l'existence de Fernande où Fernande avait des velléités, en quelque sorte, de culture qui annonçait d'une certaines façons, les appétits de culture qui seront celles de Marguerite. Je pense par exemple au moment où il est question du goût de Fernande pour la légende, pour l'histoire, pour l'anecdote historique en tout cas. Yourcenar s'amuse à parler de ses toccades en matière d'humanité latine et grecque. Et on sent qu'il y a une forme d'émotion pour celle qui, on le sait, vivra au contact de l'antique. Et au fond, plus encore que cette jeune fille un peu fantasque, ce que Yourcenar aime en Fernande, c'est la petite fille qu'elle a été, la petite Fernande juvénile, pour qui l'escapade chez les Pyrmées d'Akos, les oncles, reste par exemple l'excursion préférée auprès d'un oncle poète qui sait dire le mystère des fleurs, conter des histoires de saints, de saintes du Moyen-Âge. Et là, le jeu d'identification est subtile parce que la chronique à ce moment-là désigne Fernande en des termes qui semblent presque anticiper le récit d'enfance de Marguerite au Mont Noir. On a par exemple cette phrase, la petite trottine avec lui le long des plates-bandes. Il s'agit de Fernande avec l'oncle Pyrmée. Et c'est la manière au fond qu'on a pratiquement la même phrase pour parler de Marguerite au Mont Noir, conduite par la main protectrice du père Michel. Donc c'est la manière que Marguerite a de traverser Fernande au fond, sur le mode d'un partage des goûts. Et à ce titre, Fernande est au fond fille de sa fille.
La grand-mère paternelle, Noémie, ne semble pas très appréciée par Marguerite Yourcenar. Qu'est-ce que vous pensez de...
Alors,
ce personnage.
C'est vrai que on peut être amusé par la manière dont Yourcenar
a pas beaucoup de tendresse pour ce personnage.
C'est le moins qu'on puisse dire. La douairière, c'est vraiment la figure de Noémie Dufresne est représentée de façon extrêmement critique. La verve de l'écrivain s'exerce à plein sur le cas Noémie. C'est un peu un caractère, hein, au sens classique du terme, cette Noémie. Elle est affligée de la manie du possessif et elle est présentée comme ayant un esprit de contradiction systématique. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette charge. Ce que, au fond, si Marguerite Yourcenar semble avoir effectivement une sorte de haine pour Noémie, c'est parce que au fond, la douairière confond être et avoir. D'une certaine façon, Noémie est l'incarnation d'une société occupée de ses possessions et de ses droits. Elle est, au fond, réduite à une sorte de pure addition de manque. On ne lui a pas dit que les choses méritent d'être aimées pour elles-mêmes. On ne lui a pas appris à aimer Dieu. On ne lui a même pas appris à s'aimer, hein, dit Marguerite Yourcenar. Noémie, ce serait l'incarnation d'une caste où l'indépendance d'esprit ne se porte pas. Hein, s'il y a portrait-charge, c'est parce que aussi il y a une certaine distance de Yourcenar par rapport à aux limites ce type milieu lorsqu'il campe sur des positions de possédant. Donc, souvenir pieux, à cet égard, constitue parfois une sorte de dictionnaire des idées reçues, si vous voulez.
Il y a aussi les oncles. Deux frères, Octave et Rémo Pirmé, deux figures sur lesquelles Marguerite Yourcenar s'attarde. Pourquoi ?
Alors, il s'agit en réalité, comme elle le dit elle-même, de deux grands-oncles à la mode de Bretagne, hein, que seraient Octave et Rémo Pirmé. Pourquoi est-ce que Yourcenar va s'attarder sur les deux frères Pirmé ? Parce qu'elle est en présence ici de deux êtres d'écriture. Ils ont tenu la plume l'un et l'autre. Hein. Et elle le dit très bien, enfin deux esprits de corps, de voix qui s'expriment avec fougue ou au contraire avec réticence. Donc il y a chez elle la fascination de l'écrivain pour ceux qui ont cherché à trouver leur identité à travers l'écriture. Hein. Alors bien sûr, Rémo Pirmé a plus d'atouts a priori que son frère pour séduire Yourcenar, parce que il a été l'étudiant de Weimar et d'Iéna, il a été un enthousiaste de Fichte et de Haeckel, il a médité sur les philosophes de l'Inde. Au fond, Yourcenar trouve en lui tous ces goûts de rebelle intellectuel, hein, qu'elle aura plus tard. Mais finalement, même si avec Octave le contact s'est fait de manière moins immédiate, hein, il a été finalement à certains moments un pâle scripteur, un petit peu dans une sorte de romantisme attardé, même si elle a une certaine irritation par rapport à cette attitude systématiquement mélancolique, hein, c'est vrai que elle explique qu'elle a appris aussi à rencontrer cette identité littéraire d'Octave, qu'elle a aimé au fond l'ample culture gréco-latine d'Octave, qui pratiquait Marc Aurèle, elle le dit, comme un tonique spirituel. Elle a eu aussi de l'attrait pour celui qu'elle appelle l'homme dryade, parce qu'il est respectueux ou curieux des vies végétales et animales, qu'il est adonné à la relecture de François d'Assise, qu'il est habité par l'exigence d'une attention à créature sensible. Et ce qu'elle a aimé peut-être plus que tout en Octave Pirmé, c'est que c'est l'amour, en quelque sorte, l'amour posthume qu'il a porté à son frère, hein, son frère trop jeune défunt, hein, puisque Rémo Pirmé s'est donné la mort dans un âge relativement jeune. Et ce qu'elle apprécie aussi en Octave, c'est cette capacité d'élégie finalement qui est en lui, cette manière qu'il a d'avoir accompagné au fond le cheminement de son frère vers l'épreuve dernière. Et il y a dans cette ballade un peu funèbre une grandiose élégie pour au fond pour deux âmes qui s'accompagnent et qui au fond se soutiennent l'une l'autre dans ce voyage vers la région immuable, comme dit très bien Marguerite Yourcenar.
Et si pour les oncles, elle sent une filiation intellectuelle, il y a bien sûr la figure qui domine les mémoires de Marguerite Yourcenar et peut-être sa vie, c'est celle donc de Michel, le père admiré, complice, qu'elle a beaucoup aimé.
Oui, les critiques et les biographes se sont souvent exprimés sur la relation étonnamment étroite qui unissait Marguerite et son père. Alors cette fraternité de cœur et d'esprit est lisible, à n'en pas douter, en maintes pages de la trilogie. Le père de Marguerite est bien héroïsé à certains égards, même si la narratrice sait introduire dans le roman du père un humour, parfois de conteur XVIIIe siècle, aux prises avec un être qui cultive écart et excès. Alors cette fois, c'est moins une plume qu'une voix dans laquelle Yourcenar a eu souci de se couler. On sait l'attachement de l'auteur à cette belle catégorie de la voix, chère à Paul Valéry, présence sonore d'un sujet. Et deux fois, dans le texte, est soulignée la valeur presque sacrée des récits que ce père adoré faisait de sa propre existence à sa fille, au cours de longues promenades dans la campagne provençale ou dans la campagne ligure. Et elle dit elle-même qu'elle a choisi de répéter, de se répéter ses récits, un peu comme on fait tourner un vieux disque. C'est une expression d'archives du Nord que j'aime personnellement. Donc comment ne pas sentir qu'il y a un vibrato particulier de ces pages qui veulent évoquer les rythmes de la vie de Michel. Nous voyons se dessiner un être éminemment mobile, toujours prêt à épouser l'instant, à suivre la circonstance, à s'abstraire du monde de la contrainte, à résister aux limites qu'on lui dresse. Donc un être aussi qui aime à se répéter comme Hamlet que le monde est une prison et qu'il faut du moins changer de cachot. Donc Marguerite Yourcenar préconisera, elle, simplement de faire le tour de cette même prison.
Anne-Yvonne Julien, on sait que Marguerite Yourcenar est morte avant d'avoir achevé le dernier récit de la trilogie. quoi l'éternité? N'est-ce pas troublant qu'elle ait attendu la vieillesse pour aborder le récit de son enfance?
Alors, c'est vrai que, aux yeux de Marguerite Yourcenar, pour mener une quête d'identité authentique, il fallait au fond montrer comment elle s'était trouvée d'abord elle-même à travers une éducation, une formation, des lectures multiples, des initiations diverses, une expérience de vie, avant de poser véritablement son regard sur la petite qu'elle avait pu être. Et par ailleurs, Yourcenar n'a cessé de dire qu'il y a deux moments particulièrement opportuns au fond de la quête d'identité, l'enfance consciente d'elle-même et la vieillesse, phase de l'éveil individuel ou la phase du bilan existentiel. Donc la période intermédiaire, se plaît-elle à dire, c'est celle où l'individu peut être conduit à basculer dans l'inauthenticité du « on », hein, par dépendance à l'égard d'une image fabriquée de soi-même. Donc au fond, c'est effectivement dans l'extrême maturité qu'elle a eu envie de ressaisir celle qui s'éveille au monde, hein, au moment même aussi où elle sent qu'elle va quitter le monde. Et ce qui est émouvant, c'est que précisément dans « Quoi l'éternité ?», très souvent, elle juxtapose au fond la réflexion du jeu extrêmement mature, hein, du jeu J.E. extrêmement mature qu'elle est et qui commente, et le personnage de la petite qui s'éveille au monde. Et on peut dire qu'elle nous présente, au fond, de manière particulièrement solennelle, toute une série de premières fois. Premiers éblouissements au contact du monde mythologique que fait naître pour elle le père, hein, qui est au fond un enchanteur du quotidien. Premières émotions devant la beauté des rituels catholiques. Première initiation à la vie avec toutes ses saveurs dans la salle des gens, hein, qu'elle décrit remarquablement. Premiers émois du cœur, premiers émois des sens en face de sa bonne barbe, par exemple, dont elle partage le quotidien. Première indignation devant le mensonge adulte. Première détresse aussi devant l'évidence de la mort du bon vieux chien Trier, hein, exprimée dans une lettre qui fait figure de première composition littéraire. Mmh. Premier bonheur, premier miracle de la lecture, image de Paris aussi, de Londres, auxquelles s'associe la fréquentation intensive des musées, des théâtres. Donc première approche du lien avec une culture vivante. Il y a là, au fond, dans ce passage en revue de ces moments d'enfance, une méditation sur ce qu'est un être qui vit le devenir et qu'on ressaisit par une mémoire, mais par une mémoire qui fluctue elle-même, qui se transforme et qui transfigure le souvenir. Et Marguerite Yourcenar a une très belle formule. Elle dit « La mémoire n'est pas une collection de documents déposés en bon ordre au fond d'on ne sait quel nous-mêmes. Elle vit et change, elle rapproche les bouts de bois morts pour en faire de nouveau de la flamme. »
Oui, c'est très beau. Je voudrais bien quand même, Anne-Yvonne Julien, que vous nous parliez un peu du choix des titres de ces trois textes qui constituent le labyrinthe du monde. Souvenirs pieux, Archives du Nord et Quoi, l'éternité, repris d'un poème de Rimbaud dans Une saison en enfer. Elle est retrouvée, Quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces titres ?
Alors, c'est vrai, chaque titre est pleinement signifiant. Les souvenirs pieux, ce sont ces feuillets que l'on conserve entre les pages d'un missel pour accompagner le défunt en esprit dans son cheminement. Et c'est vrai qu'il semble qu'en feuilletant les archives de famille, Yourcenar ait souvent rencontré la panoplie du catholique de convention. À ce titre, elle a éparpillé tout au long du premier texte ses in memoriam familiaux. Et elle en a assorti d'ailleurs la citation de commentaires parfois ironiques ou désabusés parce que, au fond, ces souvenirs pieux ne sont pas parfois en adéquation avec les êtres dont ils sont la trace, si l'on peut dire. Donc, c'est vrai que Souvenir pieux peut être considéré comme un titre ironique à certains égards, puisque Yourcenar pouvait manifester au fond sa réticence par rapport à la manière dont les hommes camouflent le moment dernier, l'épreuve finale. Hein. Mais d'un autre côté, en même temps, les souvenirs pieux figurent dans le texte au même titre que les écrits personnels, les faire-part de naissance, donc au titre des archives familiales malgré tout. Et à ce titre, ils méritent attention. Hein, ce sont de pauvres résidus d'une existence qui mérite valorisation. Donc, d'une certaine façon, Marguerite Yourcenar manifeste une certaine forme d'ironie par rapport aux souvenirs pieux, dans la mesure où ils sont des lieux communs. Mais d'un autre côté, elle a une certaine forme de piété pour ces pauvres résidus d'existence qu'elle découvre parmi d'autres en explorant les archives de sa propre famille. Donc, titre ambigu. Alors, Archives du Nord signale bien sûr le souci d'historienne de Marguerite Yourcenar, dans la mesure où ce qui est mis en avant, ce n'est pas le caractère privé de l'archive, mais bien plutôt la manière dont les archives personnelles témoignent d'un ancrage existentiel dans une région, la Flandre, le Nord, l'Europe septentrionale, comme elle se plaît
à
le dire.
Oui, ça privilégie une géographie plus qu'une,
voilà,
qu'une famille.
Une géographie, un environnement, une terre aussi, hein, à laquelle elle a dit son attachement, et attachement qu'elle a manifesté aussi, dans la mesure où le retour en Flandre, elle l'a effectué également, Marguerite Yourcenar, à travers le cheminement du Zénon de l'œuvre noire ou du Nathanaël d'un homme obscur. Alors, je reviens au titre. Donc, Quoi l'éternité affiche évidemment le parrainage de Rimbaud. Hein. La référence peut étonner. Dans quelle mesure le jeune génie mettre en provocation, au fond, l'être épris de liberté libre, peut-il, dans le contexte du projet d'Yourcenar, montrer la voie ? Alors, les deux écrivains, c'est vrai, ont déambulé dans les mêmes contrées septentrionales.
Oui,
l'écrivain femme, par ailleurs, a disposé tout au long de son propre labyrinthe des indices de la présence biographique du poète de Charleville. Hein, dans Souvenir pieux, par exemple, elle avait conduit le grand-oncle écrivain Pierre May aux abords du cabaret vert de Charleroi. Mais ce partage des territoires référés n'est pas une suffisante justification au détour par l'interrogation poétique rimbaldienne. En recourant au pentasyllabe parfaitement frappé, l'auteur du moderne labyrinthe, au fond, redouble le jeu d'énigmes. Puisque, je vous rappelle que le vers peut être mentalement resitué dans le cadre d'un poème-chanson, L'éternité, qui est daté de mai 1872 et qui appartient à un ensemble intitulé Fête de la patience, et auquel cas il renvoie à la période naïve de Rimbaud, à celle qui succède à celle des enchantements provoqués du voyant, et la strophe concernée se dessine ainsi, elle est retrouvée, quoi l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil, ou bien ce pentasyllabe doit être rattaché à la variante de ce poème cité parmi d'autres dans la prose d'une saison en enfer, hein, vous la citiez, alors même que, en un sursaut rétrospectif, Rimbaud se fait le pourfendeur de ses propres délires, s'invectivant lui-même d'avoir souscrit, comme il le disait, à la vieillerie poétique et s'imposant d'aller plus avant avec une ardente patience, sans négliger cette fois la réalité rugueuse à étreindre. Il va de soi que Yourcenar connaissait parfaitement les deux contextes, qu'elle connaissait au fond l'environnement de dérision et d'ironie qui préside à la variante de la strophe précédemment citée et qui fait de cette phrase aussi, qui fait de... Alors, il va de soi que Yourcenar connaissait ce contexte Il va de soi que Yourcenar connaissait ce contexte de dérision et d'ironie de la saison en enfer. Mais pourquoi ne pas faire l'hypothèse que Marguerite Yourcenar assume pour son propre bénéfice le double contexte, hein, et en tirer un enseignement qui peut éclairer d'un jour neuf la curieuse tâche de suggestion d'éternité à laquelle le troisième volume du triptyque semble en partie dévolu. Alors, dans son propre labyrinthe, au fond, tout en observant un vœu d'approfondissement de soi, Yourcenar n'a pas fait fi pour travailler sur une base de merveilleux, renouvelée, s'attacher elle aussi d'une certaine façon à la vieillerie poétique, aux souvenirs pieux exhibés, aux illustrations enfantines de légendes locales, à des rythmes naïfs, aux savoureux pot-pourri de morceaux de, elle le dit elle-même, refrains égrillards ou scatologiques entendus dans la salle des gens. Hein. Et au fond, toutes ces bribes d'une sorte de poésie quotidienne lui ont permis d'aborder une sorte de territoire du passé révolu, hein, avec toute la poésie qu'il portait. Hein. On sait aussi l'admiration que Yourcenar voue au Rimbaud poète, hein, qui manipule avec une grande dextérité la symbolique alchimique, sa dynamique verbale, ses connexions imaginaires, sa codification en réseau, lui qui connaît parfaitement les gammes hermétiques. Donc, c'est vrai que même si le labyrinthe du monde ne s'affiche pas comme une quête ésotérique du sens, malgré tout, il y a un fil du récit initiatique aussi, hein, dans cette trilogie. Bon, on sait d'ailleurs combien Yourcenar a travaillé, hein, le symbolisme alchimique à travers l'œuvre noire en particulier. Et si l'on regarde bien les choses, il y a aussi un petit peu des traces discrètes au fond des phases répertoriées du grand œuvre dans la trilogie du labyrinthe du monde. Indéniablement, la couleur du deuil, hein, la couleur noire est très prégnante dans Souvenirs pieux. L'ouverture grandiose d'Archives du Nord, sous le signe d'une lyrique cosmique, est invitation à recréer en soi la Wiriditas, cet océan vert, bougeant et changeant au cœur des heures, des jours et des saisons. Quant à la couleur blanche, elle est omniprésente dans Quoi l'éternité ? Blancheur écumeuse de la vague, blancheur des tenues estivales de l'enfant, blancheur du bonnec, le cheval lunaire des légendes baltiques qui inspire une œuvre dansée à Egon, le créateur, blancheur de l'ombrelle fugitive entreaperçue au Louvre de Jeanne, la mère adoptive, blancheur bruissante et rassurante de la laiterie qui jouxte la salle des gens et le centre du mont noir, blancheur silencieuse de l'infini blanc que semble porter en lui Richard Byrd, l'explorateur voisin de l'auteur sur l'île des monts déserts qui est évoqué à la fin de Quoi l'éternité. Donc, il est certain que Yourcenar a filé au fond, malgré tout, la métaphore alchimique dans cette trilogie du labyrinthe du monde. Donc, le premier contexte du vers de Rimbaud peut être celui de fête de la patience, hein, celui de la chanson spirituelle. Mais on peut imaginer aussi que le contexte d'une saison en enfer, où Rimbaud se cite lui-même, hein, et avec ironie cette fois, est aussi recevable. Parce qu'après tout, certes, il y a loin de l'entreprise du labyrinthe à l'explosion de rage de Rimbaud contre ses propres errements. Hein. Ce que l'auteur de Quoi l'éternité a pu emprunter au second Rimbaud, au fond, c'est une défiance toujours plus affirmée à l'égard de la subjectivité. Hein. Mmh. Au dire du poète de la saison, il fallait rompre avec une sensibilité fadasse, il fallait aller au-delà même, il fallait piétiner le sujet dilaté, exalté par l'hallucination. Seul importait le retour au sol, pour lequel il fallait capter les influx de vigueur et de tendresse réelle. Alors c'est vrai, Yourcenar ne s'aligne pas sur l'extrémisme du jeune poète fulgurant, mais elle s'attache à une définition ambivalente du temps et de l'éternité qui est proche d'une sorte d'exploration de la réalité secrète. Et c'est vrai que Rimbaud est allé vers ses orients, hein, comme il le disait. Yourcenar est allé, elle, vers les multiples voies de sagesse de l'Inde, de la Chine, du Japon. Et au fond, l'éternité, c'est peut-être aussi le flux continu d'un temps qui ne cesse de s'en venir et de s'en aller. Hein. Il n'est pas, ce n'est pas un hasard si Yourcenar réévoque à plusieurs reprises dans le labyrinthe du monde ce contact qu'elle a eu avec les diverses ères bouddhistes ou taoïstes, cette approche de la présence même du présent à laquelle, d'ailleurs, les mystiques chrétiennes, dans leur diversité, l'avaient préparée. Alors, quant au titre général, Le labyrinthe du monde, c'est évidemment une allusion précise à l'œuvre de l'humaniste et frère morave du XVIIe siècle, Jan Amos Komenski, dit Comenius, Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur, pour laquelle d'ailleurs Michel de Crayancourt se serait pris d'enthousiasme, au point d'en traduire sur l'impulsion de Jeanne, amie de Michel, et mère adoptive, en quelque sorte, de Marguerite, la version anglaise du conte Lutsoff. Alors, pourquoi Yourcenar a-t-elle choisi de coiffer la triade de ses chroniques familiales par le titre partiel d'une œuvre de ce théologien, protestant, persécuté, inlassable, éducateur, penseur social et européen, esprit polyvalent s'il en fut? Alors, plusieurs motivations ont pu jouer. Le souci d'abord de rendre un hommage fervent au père, amateur au sens plein du vieux livre tchèque, et de retrouver, une fois de plus, sous sa propre plume, la plume de l'autre. De celui qui fut, on l'a dit, un éveilleur de culture. Mais par ailleurs, opter pour la référence affichée à l'œuvre d'un prédicateur de l'unité des frères tchèques, c'est aussi, indirectement, redire l'influence de Jeanne, hein, qui admirait cette fraction de l'Église réformée, attachée à une théologie de la vie intérieure. N'oublions pas que Jeanne de Wittinghoff est représentée la plupart du temps comme un modèle d'une foi ouverte, un modèle du croire autrement. Et qu'elle a été, de ce point de vue-là, aussi une sorte d'idéal du moi pour Marguerite Yourcenar. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est que dans son moderne triptyque, Yourcenar, au fond, insère un fil allégorique, puisque le labyrinthe du monde de Comenius est un voyage allégorique qui s'inscrit dans la lignée des textes édifiants d'ordre éthique ou spirituel du XVIIe siècle. Au fond, nous avons là l'errance d'un pèlerin qui est décrite dans ses détours, dans ses dérives, dans ses moments d'incertitude, de désorientation, etc. Et tout cela renvoie à la progression hasardeuse de l'homo viator qui est égaré par les vanités mondaines sur le chemin de la vie terrestre et qui aspire, à son propre insu d'ailleurs le plus souvent, à l'horizon ouvert et lumineux de la vie céleste en Dieu. Alors, bien sûr, Marguerite Yourcenar ne se prend pas pour le pèlerin de Comenius. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait du topos du voyage un élément de structuration essentiel des trois tomes des chroniques. Et surtout, elle montre au fond comment ces personnages progressent tous dans le labyrinthe du monde. Alors, chacun a son propre mode de cheminement. Et ce qui rend les choses aussi palpitantes pour le lecteur, c'est qu'elle a fait en sorte que nous voyons Michel de Crayancourt traduisant le labyrinthe du monde de Comenius et offrant évidemment à ses compagnons d'existence la possibilité d'un débat sur les significations de ce voyage allégorique. Et chacun a évidemment sa lecture du beau texte de Comenski. Hein. Michel, en humaniste athée qu'il est, se passionne pour le cours toujours recommencé du pèlerinage. Mais au fond, la fin édifiante l'indispose. Yourcenar s'amuse à dire qu'il bâcle la dernière partie. Jeanne, qui aurait lu jadis ce livre avec Fernande, se souvient d'un goût partagé pour le second versant aux inflexions mystiques qui compte la progression du pèlerin jusqu'au trône de Dieu. Et de son côté, Egon, mari de Jeanne, hein, et qui est aussi un créateur musicien, lui songe à mettre le texte de Comenius en note et il croit percevoir, derrière la trame de ce livre en partie grotesque, une musique bête et grossière comme la vie, s'achevant pourtant en monodie pure. Hein. Donc on a plusieurs lectures du labyrinthe du monde de Comenius. C'est une façon aussi pour Marguerite Yourcenar de nous dire que nous-mêmes, lecteurs, nous allons être un pèlerin dans ce labyrinthe du monde et avoir diverses lectures possibles du labyrinthe du monde de Marguerite Yourcenar.
Marguerite Yourcenar, donc on l'a vu, recrée des personnages à partir d'archives familiales, mais Anne-Yvonne Julien, il ne faudrait pas oublier qu'elle est aussi donc une romancière. Et j'aimerais bien que nous évoquions les personnages, disons, entièrement imaginés, ceux de ses romans. Le plus connu, sans doute, est Zénon de L'œuvre au noir, mais il en est un moins connu, peut-être, très attachant, en tout cas que j'aime beaucoup personnellement, c'est Nathanaël, personnage d'un homme obscur. Un homme obscur est l'un des trois récits avec Anna Soror, Une belle matinée, regroupé sous le titre général de Comme l'eau qui coule. Au sujet de ce livre, vous écrivez dans La signature de l'arbre, Anne-Yvonne Julien, que l'allure du soliloque de l'homme obscur n'a peut-être pas été si aisée à trouver. Et d'ailleurs, pour ce récit, vous parlez de méditation. Pourquoi ?
Alors, la question est importante, effectivement, mais je dirais qu'on peut lui donner un élargissement.
Oui. C'est
vrai que l'entreprise partiellement autobiographique du labyrinthe du monde est en lien évident avec les grands romans de la maturité de Marguerite Yourcenar. Mais au fond, ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois, Yourcenar nous a offert une méditation du personnage. Chaque fois, elle a rejoint une intériorité, et cette intériorité était préoccupée de sa propre quête d'identité. On va parler bien sûr de Nathanaël qui est pour moi aussi un personnage tout à fait séduisant, mais revenons finalement sur les trois romans de la maturité. À chaque fois, Yourcenar fait au fond des propositions humanistes, mais des propositions humanistes qui n'ont aucune rigidité. Yourcenar a fait d'Adrien, dans Mémoire d'Adrien, une figure de sa propre mythologie intellectuelle. Elle a conçu ses mémoires fictifs comme l'espace textuel d'une méditation au contour ample, au contour solide, étayée par une culture de soi à l'antique. Et ouverte aux apports régénérants des civilisations autres. Quand on se tourne vers l'œuvre noire, ce que l'on sent, c'est la pulsation d'un XVIe siècle qui vibre à la fois d'espérance et de fureur, et qui a fait que Marguerite Yourcenar a eu envie de rencontrer un personnage qui, par son statut de médecin philosophe, était en prise tout à la fois sur l'euphorie des savoirs renaissants et sur la douleur d'un monde malmené. Une fois encore, c'est une méditation à la troisième personne, une méditation auquel, au fond, la traversée de l'abîme en particulier, donne tout son épanouissement. Et ce que Yourcenar met en place, ce sont les contours conceptuels d'une songerie qui se perd parfois aux abords de l'abîme, mais qui se reforme en une éthique incarnée de l'échange lorsque le monologue de Zénon se résout à être dialogue in aeternum, par exemple, avec le discours du prieur des Cordeliers. Avec le trajet de l'homme obscur, de Nathanaël, ce personnage d'ouvrier imprimeur, ce personnage d'autodidacte, Yourcenar, vous avez raison, fait un pari relativement audacieux puisqu'il s'agit d'élaborer un personnage qui se construit en quelque sorte à l'insu de lui-même.
Oui.
C'est un personnage auquel, contrairement à l'Adrien des mémoires, contrairement au philosophe alchimiste de l'œuvre noire, auquel il n'a pas été donné une culture en bonne et due forme. C'est un personnage qui, au fond, s'est fabriqué lui-même. C'est un personnage néanmoins qui s'est saisi au fond, lui-même, d'une culture qui s'offrait, d'une nature qui se savourait et qui a été, au fond, jusqu'au bout de son propre parcours intérieur. Et Yourcenar nous rend sensibles à cette méditation sans contour de son homme obscur. Et c'est une rêverie finalement sur un gain éthique par accumulation.
Gain éthique par accumulation, c'est-à-dire, vous pouvez nous préciser ça ?
Alors, gain éthique par accumulation, c'est-à-dire que Nathanaël est conçu comme un personnage qui peut se saisir de la circonstance, au fond, pour trouver en lui-même la force de son être et la force d'une adhésion à la nature qui l'englobe. Et d'ailleurs, si on regarde bien le texte d'un homme obscur, ce qui est frappant, c'est que Yourcenar, au fond, s'est amusé à donner à Nathanaël un interlocuteur philosophe, le personnage de Léo Belmont, qui a, d'une certaine façon, pose presque pour le philosophe hérétique Spinoza.
Oui, et tout ça se passe à Amsterdam.
Voilà. Et au fond, ce qui est fascinant, c'est de voir que Yourcenar confie à un personnage qui n'a pas de véritable formation intellectuelle la tâche, au fond, de représenter ce qui est le devoir du véritable philosophe pour Spinoza, c'est-à-dire la possibilité de croire à l'éternité en soi. Et elle donne à Nathanaël cette capacité de connaissance intuitive de l'éternité en soi. Elle lui fournit cette possibilité par la poésie même de son texte. Nathanaël, au fond, formule une sorte de monologue intérieur. Elle lui donne cette chance formuler une sorte de songerie qui est presque une méditation philosophique, mais qui va passer par les mots les plus simples. Et c'est vrai que les dernières pages de Nathanaël, d'un homme obscur en particulier, sont d'une très grande beauté, d'une beauté sobre, où on voit un Nathanaël se fondre véritablement avec la nature englobante qui est autour de lui et qui va en quelque sorte lui procurer une sorte de joie pure. Et la joie, c'est vraiment un concept spinoziste.
Avant de conclure notre entretien, parce que nous arrivons déjà à la fin, j'aimerais bien que nous évoquions le beau recueil des Nouvelles Orientales, d'autant que vous venez de publier, Anne-Yvonne Julien, un essai sur ce recueil chez Foliothèque, n'est-ce pas ?
Alors oui, et c'est vrai que dans la constellation des ouvrages de Marguerite Yourcenar, les Nouvelles Orientales ont un statut un peu particulier. Certains lecteurs, qui sont pourtant sous le charme du premier récit, qui fit vraiment date pour le jeune auteur de 26 ans, Alexis, ou le traité du vin combat, 1929, ont tendance à accorder aux nouvelles, comme d'ailleurs aux écrits yourcenariens nés dans les années 30, une moindre attention. À étiqueter comme œuvre mineure ce qu'ils assimilent à un brillant exercice de réécriture à base légendaire, à base folklorique. Et à nos yeux, Nouvelles Orientales n'est en aucun cas un texte marginal de l'auteur de Mémoires d'Adrien. Bien sûr, le recueil n'a pas la densité des amples fictions, mais il entretient avec l'ensemble des créations de l'écrivain des liens multiples, des liens subtils, et il peut constituer, je crois, une entrée de lecture sur une œuvre plurielle, parfois déroutante, mais d'une complexité, on l'aura compris, roborative pour celui qui prend le temps d'y cheminer. Hein, parce que, d'une part, Nouvelles Orientales se démarque de la manière un peu classicisante par laquelle l'écrivain a manifesté son accès au monde des lettres. Alors, d'une part, c'est vrai, ce texte est plutôt apparenté aux deux autres recueils de récits brefs de la même période, Feu 1936 et Les songes et les sorts. Ils forment avec eux une sorte de triptyque, dont ils constituent le volet essentiellement légendaire, Feu étant le volet mythique et Les songes et les sorts le volet onirique. Tous trois ressortissent à ce que Yourcenar a parfois nommé expressionnisme un peu outré et qu'elle place sous le signe d'une liberté, d'une fantaisie à la mesure de ses propres nomadismes dans la lumière d'années méditerranéennes, qu'elle a pleinement vécu ces années méditerranéennes. Bon, par ailleurs, ces nouvelles sont orientales, c'est-à-dire que la Grèce est apparue comme, au fond, la porte ouverte sur le Levant, pour Marguerite Yourcenar. Mais on a un massif dans ces nouvelles qui est gréco-balkanique, et puis, et bien sûr, ce massif, comme toujours d'ailleurs chez Yourcenar, s'ouvre vers l'Asie, vers l'Inde, vers la Chine, vers le Japon de Murasaki Shikibu, pour la nouvelle « Le dernier amour du prince Gingy ». Donc, il y a là une manière d'entrer en quelque sorte au contact des lectures multiples de Marguerite Yourcenar. Et puis j'ajoute aussi que si ce texte doit retenir notre attention, c'est parce que Yourcenar fait la preuve aussi, elle fait la preuve qu'elle peut aborder une culture qui n'est pas simplement une culture élitiste, dans la mesure où tout le massif gréco-balkanique est fondé aussi sur une relecture d'un folklore. D'un folklore au contact duquel elle a vécu dans ces années grecques. Il s'agit de légendes, il s'agit de chansons néo-héléniques qu'elle a entendues comme elle le dit, les bouges d'Athènes, dans les petites tavernes du Péloponnèse. Et bien sûr, elle s'est plongée dans cette archipel en quelque sorte folklorique. Elle l'a exploré d'ailleurs aux côtés de Constantin Dimaras, avec lequel elle a traduit l'œuvre insolite et magnifique de Cavafy d'ailleurs. Donc, il y a chez Yourcenar cette subtile démonstration qu'on peut travailler sur une donnée qui est une donnée de culture quasiment populaire et en faire, là encore, le moyen d'une rencontre avec le sacré d'une civilisation. Et chaque fois, ce qui m'a fascinée dans Nouvelles Orientales, c'est cette capacité qu'a Yourcenar manifester, à partir d'un récit relativement simple, une entrer en contact avec un temps sacralisé, que ce soit le temps sacralisé de la religion orthodoxe, je pense à certaines nouvelles des Balkans, ou que ce soit aussi les moments en quelque sorte de communication avec le présent en quelque sorte des flux alternés de Wang Fo.
Wang Fo sauvé.
Donc, on voit que Yourcenar a toujours une manière de s'approprier les cheminements d'investigation intérieure de ses personnages. Et les personnages les plus les moins a priori proches d'elle-même, elle arrive à travailler sur les tracés qu'il lui offre pour une véritable investigation intérieure. Et on comprend dans cette mesure pourquoi cette quête de soi, c'est une quête de soi qui passe par le détour des autres cultures, l'ensemble finalement des mondes ouverts à la littérature, à la création, pour revenir à l'être que j'appelle moi. Mais il est certain que l'être que j'appelle moi, Hein, c'est un étonnement parce que cet être est avant tout un pèlerin. Hein, et il chemine oui. en pèlerin et en étranger pour mieux advenir à lui-même.
Eh bien, nous terminerons cet entretien sur ce mot de pèlerin et pèlerinage, je crois qu'ils conviennent bien à l'œuvre de Yourcenar. Je vous remercie, Anne-Yvonne Julien, pour ces très belles analyses de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs qu'ils retrouvent toutes les références de vos ouvrages et de vos articles sur la page de ce deuxième volet de ce cycle « Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde » proposé et présenté par Lucrèce Lachenardière, réalisé par Lucien Pénaud pour Canal Académie.